carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Éric Desmazières est né en 1948. Artiste graveur, très tôt repéré pour ses qualités exceptionnelles de dessinateur et d'aquafortiste, il est collectionné depuis 1979 par le galeriste new-yorkais Andrew Ficht, qui entreprend depuis la publication de son œuvre gravée, dont le quatrième volume est paru en 2011. Il expose dans le monde entier. En France, l'Académie des Beaux-Arts l'a élu en 2008 dans la section de gravure. Depuis l'enfance, Éric Desmazières ne cesse de dessiner. Après avoir fait Sciences Po Paris, dont il sort en 1971, il passe quelques mois à l'École spéciale d'architecture boulevard Raspail à Paris. Comprenant que l'architecture n'est pas sa voie, il décide de suivre assidûment les cours de gravure de la ville de Paris auprès de Jean Delpech, ancien prix de Rome. Là, il rencontre de nombreux graveurs aujourd'hui connus, parmi lesquels Yves Douaret, François Houtin et Philippe Molitz. Il décide alors de se consacrer totalement à la gravure, un domaine qu'il pensait de toute façon explorer, depuis la double rétrospective Rembrandt en 1969 à Amsterdam et à Paris, où il avait vu les gravures et les dessins du maître issus de la collection d'Edmond Rothschild. Au même moment, il découvrait Piranèse. Ses dessins et ses estampes sont le fruit d'une rencontre avec un lieu, un espace, une personne. Les idées se mettent en réserve dans sa tête pour ressurgir plus tard. Point d'abstraction dans les gravures d'Éric Desmazières, mais une transcription du réel si précise qu'elle en devient irréelle, parfois mêlée aux fruits de son imagination. Ainsi, les gravures d'Éric Desmazières racontent des traversées historiques improbables, des architectures imaginaires. Son univers semble tout droit sorti des livres et des bibliothèques. Puis vient, pour lui, le lent plaisir de les graver, dit Anne-Marie Garcia dans la biographie qu'elle lui consacre, Une vie en gravure, dans le très beau livre que publie la Bibliothèque nationale de France et les éditions Hazan, intitulé « Éric Desmazières, voyage au centre de la bibliothèque ». Le livre a été réalisé sous la direction de Céline Chicha-Castex, conservateur au département des estampes et de la photographie à la BNF, avec la participation de l'écrivain Olivier Rollin et du conservateur au musée de l'École des Beaux-Arts, Anne-Marie Garcia. Le livre, intitulé « Éric Desmazières au cœur de la bibliothèque », est sorti à l'occasion de l'exposition que lui consacre l'Association des Amis de la Bibliothèque nationale de France à la Galerie des donateurs de la BNF. Il s'agit de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, qu'Éric Desmazières a reproduite dans différentes gravures. À travers une sélection d'images exceptionnelles, gravures, estampes, rehaussées et dessins, l'artiste a livré sa propre vision de la Bibliothèque nationale et en particulier de la salle Labrouste. C'est donc la bibliothèque telle que l'a dessinée l'architecte Henri Labrouste au XIXe siècle qu'Éric Desmazières a choisie. D'autres gravures en rapport avec la thématique des bibliothèques et celle du livre sont également exposées. L'exposition est à voir du 9 octobre au 18 novembre 2012 sur le site de la BNF François Mitterrand. Que représente pour vous une bibliothèque, Éric Desmazières ?
Ça représente la même chose que pour tout le monde, un endroit où on range des livres. Ce à quoi je suis sensible, enfin comme beaucoup, c'est que c'est souvent de très beaux espaces architecturaux, de taille variable, parce que ça peut être des endroits relativement intimes, privés d'ailleurs, ou alors monumentaux. Souvent la présence des livres, la présence des tables, des chaises, des lecteurs en font des endroits chaleureux, disons. Voilà ce que ça représente. Bon, je suis sensible à l'espace architectural, mais je suis devenu particulièrement sensible à la thématique des bibliothèques après avoir fait des illustrations d'une bibliothèque imaginaire, qui est la bibliothèque de Babel, décrite, entre guillemets, parce que justement c'est très peu descriptif, par Borges dans une nouvelle célèbre qui s'appelle « La bibliothèque de Babel », qu'il a publiée en 41, je crois, qui est censée décrire une bibliothèque infinie contenant, enfin c'est une espèce de blague, hein, c'est contenant tous les livres, les variantes, les livres perdus, les livres qui ne seront jamais écrits, les traductions, enfin bref. Ce texte, je l'ai illustré en 97 Et ça m'a beaucoup inspiré. Ça a d'ailleurs été difficile parce que justement, comme il n'y avait rien de descriptif dans l'ouvrage, il a fallu faire un vrai travail d'imagination en partant de quelques éléments, quelques clés données par Borges, notamment le chiffre 6, que les salles avaient 6 côtés, que les bibliothèques avaient 6 étages. Enfin, comme ça, il y avait une espèce de thématique autour du chiffre 6, mais à mon avis, c'était plutôt de l'ordre de la plaisanterie chez lui qu'autre chose. Donc, j'ai fait ces illustrations. Ça a été un travail qui m'a beaucoup occupé pendant au moins 2-3 ans. Et puis ensuite, on m'a fait remarquer que c'était très bien, mais que pourquoi pas s'intéresser aussi à des bibliothèques réelles. Et il s'est trouvé que mon ami Maxime Préaux, qui était à l'époque directeur de la réserve du cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale, m'a dit « Mais il y a la Bibliothèque nationale, quelque chose qui pourrait être une source d'inspiration formidable pour toi, c'est la salle Labrouste de la Bibliothèque nationale, qui est la grande salle de lecture du bâtiment de la rue de Richelieu. »
Alors, dans l'exposition Éric Desmazières au cœur de la bibliothèque, justement, sont exposées cette série de gravures sur la bibliothèque de Babel que vous avez donc imaginée à partir de cette nouvelle.
Du texte de Borges, oui.
C'est la série complète ?
Il y a 11 gravures.
C'est la série complète ?
Oui, c'est la série complète, oui. Oui.
Or, qui est assez différente des dernières...
Ah oui, parce que c'est totalement imaginaire.
Oui.
Enfin, chronologiquement, il y a eu d'abord donc, les illustrations pour la bibliothèque de Babel. Ensuite, donc, je me suis intéressé à cette salle Labrouste, dans laquelle j'ai beaucoup dessiné, alors qu'elle était encore ouverte au public, c'est-à-dire avant, il me semble, 98, quelque chose comme ça, où on pouvait encore y accéder. Donc j'ai fait beaucoup de dessins sur place, dans l'idée de faire une ou plusieurs gravures. Et donc, j'ai réalisé une gravure plutôt grande pour de la gravure.
Un grand format.
Ça a été un peu un casse-tête, parce que j'avais pris un point de vue un peu en biais, qui compliquait beaucoup les questions de perspective. Donc, j'ai réalisé cette gravure un peu plus tard, en 2001. Et j'ai fait des gravures plus petites, représentant comme des détails, disons, des lecteurs, ou bien de ce qu'on appelle l'hémicycle, parce que cette bibliothèque est un grand carré avec un demi-cercle, qu'on appelle l'hémicycle. Alors j'ai aussi dessiné cette partie de la bibliothèque et je me suis arrêté en fait à ce qui était visible sans explorer plus loin.
Ça en 2001, donc dans l'exposition, alors, il y a vraiment
en fait,
à la fois
oui, alors parce que
la
c'est,
grande y a une, gravure voilà, finale, mais il y a aussi les dessins entre guillemets préparatoires.
Il y a les dessins préparatoires de cette salle Labrouste, il y a les états préparatoires de la gravure.
En plus.
Et aussi, une chose que j'aime bien pratiquer, c'est-à-dire des épreuves rehaussées, c'est-à-dire qu'une fois que la gravure est... Ce sont comme des variantes, mais à la gouache, à l'aquarelle, sur une épreuve de la gravure, parfois sur des papiers teintés, qui sont comme des avantages que permet l'estampe, c'est de faire comme ça des variantes en partant d'une matrice, comme ça. En fait, l'exposition a pour origine...
Quel est le propos de l'exposition, alors ?
C'est les bibliothèques, réelles et imaginaires, mais quand même... Très majoritairement, la Bibliothèque nationale
l'emporte.
Pas la nouvelle. Oui, parce qu'il y a d'une part tout ce qui concerne la salle Labrouste, et d'autre part, alors une commande qui m'a été faite par Sylvie Aubenas, qui est la directrice du département des estampes et de la photographie, et qui, en 2010, m'a proposé de faire une série de dessins et de gravures de ce qu'on appelle le magasin central des imprimés. Qui est l'aire de stockage des livres, qui était, parce que tous les livres ont déménagé à Tolbiac maintenant, et qui se trouve dans le prolongement de cette salle Labrouste, qui est un énorme espace, enfin plutôt un volume d'ailleurs, qui maintenant a 12 niveaux, 12 étages, qui a été construit aussi par Labrouste, mais qui a été beaucoup remanié, notamment par un architecte qui s'appelle Rouspitz dans les années 30, 40, 50, et qui contenait 10 millions de volumes, enfin les imprimés, pas les livres rares, mais les imprimés usuels, enfin le fond de la Bibliothèque nationale. Donc j'ai eu le privilège, parce que c'était vraiment...
Vous étiez seul alors ?
Oui, j'étais seul, c'était fini, c'était fermé au public. Et donc j'ai pu me placer comme ça, à divers endroits, de cette grande nef qui est très belle, parce que c'est dans le prolongement de la salle Labrouste, il y a une espèce de grande verrière qui permet de voir la salle Labrouste. Et en plus, c'est une architecture qui était très très moderne, parce que ça date des années 1860-65. Tout était métallique, justement, avec un grand souci d'éviter les risques d'incendie, etc., avec un éclairage naturel, mais qui, au fil des ans, s'est beaucoup occulté à cause de la saleté, etc. Mais il y avait une espèce de lumière, un peu d'aquarium, disons, renforcée par le fait que tout ça était donc à la veille d'une restauration, avec des centaines de néons grésillant, plus ou moins s'éteignant, s'allumant. Et donc, dans cet espace à la fois Jules Vernien, borgésien, piranésien, kafkaïen, j'ai pu faire comme ça pendant plusieurs semaines des dessins, enfin vraiment d'après nature, d'après sur le motif. et dont j'ai tiré donc 6 gravures qui sont une suite qu'on a appelée MCI, c'est un peu série télévisée, mais ça veut dire le magasin central des imprimés. Et voilà, c'est cette suite, les dessins préparatoires et des épreuves rehaussées des gravures qui est présentée à Bibliothèque Nationale, en plus de la salle à brousse, des petites gravures qui sont aussi un peu proches de la salle à brousse, de la Bibliothèque de Babel. Et enfin, il y a une autre chose qui est exposée, qui est en rapport à la Bibliothèque Nationale, c'est qu'en 2005, la Bibliothèque Nationale m'a demandé de faire des dessins pour célébrer l'installation des globes de Coronelli à Tolbiac, ces globes fameux qui avaient été offerts par Louis XIV par le cardinal d'Estrées, avaient été d'abord à Marly, puis à Versailles, puis dans l'ancienne bibliothèque, puis remisés, puis abîmés, puis enfin restaurés et remis.
Et on peut les voir à côté place, de l'exposition, oui, sont, là, en ce moment.
Effectivement, ils sont dans l'ouest de Tolbiac. C'est des objets incroyables, d'une très grande beauté, dont on ne connaît pas vraiment les auteurs. C'est de la peinture de très belle qualité. Il y a le ciel et la terre, comme ça. Et donc, au moment de leur installation, la Bibliothèque nationale m'a demandé de faire des illustrations en face d'un texte d'Olivier Rollin, que je connaissais comme écrivain, mais que je ne connaissais pas comme personne, et dont j'ai fait la connaissance à ce moment-là. Alors, c'est tous ces éléments autour de la bibliothèque qui sont exposés dans la salle des donateurs de Tolbiac. Oui. Concomitamment, il se trouve qu'il y a une exposition Labrouste, la cité de l'architecture. Et puis, il se trouve que ces dessins, cette commande correspond à un moment précis qui est entre le moment où tout a été vidé et le moment où la restauration a commencé. C'était le moment ou jamais pour faire ces dessins qui ne peuvent plus, parce que j'ai visité depuis l'endroit, c'est méconnaissable. Ça ne sera plus jamais comme je l'ai vu. Ça sera peut-être mieux d'ailleurs, parce qu'en fait, pendant 120 ans ou 150 ans, on a densifié cet espace, il y avait de plus en plus de livres à stocker, donc on a rajouté des travées, etc. Donc c'était devenu quand même un peu claustrophobique. Donc là, comme ça ne sera plus le dépôt des livres de Bibliothèque Nationale, mais le dépôt des livres, je crois, de l'Institut National d'Histoire de l'Art, et aussi, je crois, du cabinet des estampes, donc il y aura moins de livres, ça sera en accès libre. Donc ça va reprendre une espèce de respiration que ça avait un peu perdu. Mais j'aimais beaucoup ce côté, justement, très rempli. Comme ça, j'ai plutôt horreur du vide, et là, j'étais comblé.
Et dans les gravures que vous avez faites du magasin, là, tout était vide, mais justement, c'est plein de lignes.
C'est plein de vide.
Plein de vide, exactement.
Oui, c'était un espace graphiquement très intéressant, parce que,
des lignes
en plus,
d'escalier.
Tout est en claire-voie, donc tous ces étages sont assez bas, il y avait les casiers vides, il y avait ces travées qui ont été rajoutées, il y a les escaliers, et il y a aussi une chose, une curiosité, qui j'espère sera conservée, c'est que les commandes de livres se faisaient par le biais d'un système de pneumatiques. Alors, il y avait une espèce de grand orgue digne du Nautilus de Jules Verne au rez-de-chaussée, d'où partaient des commandes de livres dans les étages qui étaient mises dans des tuyaux, comme marchaient les pneumatiques, qui était un système très moderne. Enfin, ça a disparu en 80, je crois, dans Paris, mais ça existe encore. Enfin, ça existait encore il n'y a pas si longtemps dans des magasins, dans des administrations. Donc, il y a tout ce système de pneumatiques qui est très spectaculaire, qui engendre une tuyauterie partout dans cet espace, en plus d'une autre tuyauterie qui est celle de la lutte contre l'incendie, qui est très présente. Il y a partout des extincteurs, des tuyaux, des seaux, bref. C'était assez comme l'intérieur d'un bateau, d'ailleurs. Il y avait un aspect très maritime, aussi.
Où est-ce que vous vous êtes retrouvé avec Olivier Rollin sur ce sujet ?
Alors, la rencontre avec Olivier Rollin, donc, est due à vraiment la Bibliothèque Nationale, qui nous a mis l'un en face de l'autre. La première fois que je l'ai vu, c'est au pied des globes de Coronelli.
Une anecdote rigolote, je crois.
Il y avait une affaire d'échelle. Nous n'avions pas d'échelle, parce que ces globes sont très gros, et on n'arrivait pas à voir grand-chose que le pôle sud, on va dire, et l'Australie. Je suis un petit peu plus grand que lui, mais bon, je n'en voyais pas beaucoup plus, donc ça a été compliqué pour trouver une échelle pour accéder aux régions tempérées du globe. Il y a quelques constellations sur celui du ciel. Donc, notre collaboration s'est très agréablement passée, encore que il est écrit beaucoup plus vite que je ne dessine. Donc, on s'est liés à ce moment-là et nous sommes restés amis. Il se trouve que l'année dernière, en 2011, il était l'invité de rencontres littéraires qui sont à Guéret, qui s'appellent les rencontres de Chaminadour. Alors, il m'a proposé d'exposer au musée de Guéret pendant ces rencontres, où il y a eu une exposition sur le thème, justement, de la bibliothèque, qui était une sorte de préfiguration de celle qui a lieu actuellement à la Bibliothèque nationale. Et donc, il a écrit à cette occasion, effectivement, un texte qui vraiment m'a comblé sur la gravure, sur les bibliothèques. Enfin, on sent qu'il a tout à fait compris, qu'il apprécie. Enfin, on se trouve tout à fait en intelligence, là.
Je vais faire juste une petite citation de son texte. Pourtant, ce n'est pas, je crois, dans cette minutie que se tient le principe de l'exactitude, mais dans un accord plus profond, plus intime avec la munificence du monde. L'attention aux détails n'est pas la marque d'une virtuosité vide, mais d'une reconnaissance de la beauté des formes et d'une humilité devant la profusion du réel. Ici, je pense à ce que dit Claude Simon de l'art de Dürer dans la bataille de Pharsale. Ce qu'il en suggère plutôt, à travers une critique d'Elifort, tout l'inquiétait passionnément, dit Elifort de Dürer, tout pour l'artiste allemand est au même plan dans la nature, et de regretter que le détail masque l'ensemble. Incurable bêtise française, commente le personnage qui lit l'histoire de l'art dans un train. Car justement, et les livres de Claude Simon en sont une illustration magistrale, tout est au même plan, tout requiert de l'artiste une inquiétude passionnée, tout est vu d'un coup et pourtant de façon détaillée, dit-il, dans un passage des Georgiques où il compare ce que voient les cavaliers à un de ses dessins minutieux et précis à la mine de plomb. Ce sont des références magnifiques.
Oui, oui, et puis en plus, je suis très en accord avec l'idée que tout est dans le même plan. Et l'art du dessin, c'est aussi ça, c'est de tout mettre sur le même plan, aux deux sens du terme d'ailleurs, de tout mettre en deux dimensions et de tout traiter avec la même, avec le même respect du visuel, disons. Et en cela, oui, je crois qu'il a bien compris un peu. J'ai un très grand goût pour Dürer, il faut le dire, mais je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, ça a été... Il y avait, parce que les premières fois où je me suis trouvé dans ce magasin central des imprimés, quand même, j'étais quand même un peu décontenancé par la complexité.
Et puis comment
c'est
l'aborder?
C'est pas un endroit, comment l'aborder, sous quel angle l'aborder. Et puis c'est pas beau, entre guillemets. Ça n'a pas la beauté de la salle Labrousse qui a une espèce de majesté. C'est quand même plus compliqué,
austère.
Plus austère.
Plus abstrait.
Et plus il y avait une question de lumière. La lumière n'a pas de direction. Mais alors, justement, il s'agissait de mettre de l'ordre dans tout ça et de mettre tout ça sur le même plan. Voilà. Et effectivement, dans ces cas-là, on se rend compte que le dessin, dans sa lenteur, permet d'arriver à ça. Parce que petit à petit, on domestique l'espace, disons. Et on a du mal à conclure. Et un jour, on vous dit « Ah non, c'est fini, il faut partir, les travaux vont commencer. » C'est comme un bébé qui ne veut pas sortir de son bain, on a du mal à conclure.
Une fois que vous êtes rentré dedans... Et
mais j'ai pu continuer ensuite avec les gravures que j'ai faites à partir des dessins, et sans jamais confronter les gravures... l'espace réel qui n'était plus accessible. En ça, c'était une réinvention aussi.
La Bibliothèque nationale expose des œuvres de vous, là, dans cette exposition, qui sont données par la Galerie des donateurs. Vous-même, vous avez fait don pour
cette exposition
carnet de dessin.
Alors, la Galerie des donateurs, donc, effectivement, expose des œuvres qui sont données. Alors, c'est une double donation. Donc, la Société des Amis de la Bibliothèque nationale de France m'a acheté pour les donner à la Bibliothèque nationale les dessins préparatoires, une suite des gravures et également des épreuves rehaussées de chacune des planches de la suite du magasin central des imprimés. Et moi, de mon côté, j'ai donné le carnet de dessins que j'avais réalisé depuis longtemps, enfin entre 98 et 2010 et 2011, on va dire, à la fois la Brouste, les magasins et d'autres choses. D'ailleurs, ça contient des...
C'est une quarantaine de... Plus
il y a 80 dessins environ.
80
oui,
dessins
oui, oui, oui. Mais peut-être qu'un tiers concerne directement la Bibliothèque nationale. Mais il y a d'autres choses. Il y a notamment des dessins qui décrivent la librairie JAM, pour laquelle j'avais fait des gravures. Et donc, les dessins préparatoires de ces gravures se trouvent être dans ce carnet. C'est le même. D'ailleurs, dans les vitrines de l'exposition, il y a également... Oui, j'ai oublié de parler des vitrines. C'est que dans les vitrines, il y a donc ces gravures qui ont été faites pour la librairie JAM, et des gravures en relation avec un ouvrage publié.
Le thème, c'est le livre, en fait.
Oui,
hein.
Voilà.
C'est le livre
c'est
et les bibliothèques.
Le livre et les bibliothèques, voilà, exactement. Donc, sur les murs, c'est les bibliothèques, et dans les vitrines, c'est le livre. Et donc, il y a aussi une suite qui est inspirée d'un texte de Sir Thomas Browne, qui est un écrivain anglais qui est né en 1605 et qui est mort en 1682. Donc, il s'appelait Sir Thomas Browne, qui était à la fois un médecin, un écrivain, qui était un esprit très original, très moderne, d'ailleurs, qui a eu quelques ennuis, dont certains livres ont été mis à l'index, parce que notamment, il avait très prudemment émis quelques doutes sur la réalité des anges, mais qui était par ailleurs un esprit très curieux, qui avait un très beau cabinet de curiosité, qui était un homme, d'ailleurs, de grande renommée. Le roi Charles II d'Angleterre était venu à Norwich, où il habitait, était venu chez lui le visiter, etc. Donc, cet homme a écrit des textes très originaux pour le XVIIe siècle, notamment un ouvrage qui s'appelle Musaeum Clausum, qui a été publié qu'après sa mort, mais que j'ai illustré grâce à Patrick Moriès, qui édite des livres de bibliophilie, et que j'ai illustré en 2009. Et en fait, c'est la première édition française de ce texte. 75 exemplaires, c'est pas beaucoup. Mais donc, c'est la première fois qu'on a édité ce texte. Et cet homme était à la fois très sympathique, très célèbre, très curieux, et présentait au Service national les gravures qui sont inspirées de ce texte.
C'est son côté humaniste,
oui,
cabinet
voilà.
de curiosité qui vous
tout
a tout de suite...
Oui.
dont vous vous êtes emparé, ça aussi
oui,
c'est
oui,
une
oui,
thématique récurrente dans
C'était à la fois le livre
votre...
et le Wunderkammer, enfin, oui, oui. Et là aussi, l'histoire commence avec un libraire, André Jam, qui m'avait demandé en 97 de faire une gravure qui devait figurer dans les exemplaires de tête d'un ouvrage, enfin d'un catalogue de marchands consacré à de la documentation sur les cabinets de curiosité, quoi, toutes sortes de livres depuis le 16e jusqu'à 19e, ou jusqu'à nos jours même, concernant les collections, les collectionneurs...
En fait, il faudrait une exposition, un ouvrage sur les librairies maintenant, celles qui vous ont aussi inspiré.
Enfin, la librairie Jam est une très belle librairie du point de vue de l'aspect de l'endroit, oui, oui, en effet.
Décrivez-nous cette librairie.
Bon, c'est une librairie qui est à Saint-Germain-des-Prés, qui a toujours de magnifiques vitrines, d'ailleurs rue Gosselin, près de la rue Bonaparte, et dans laquelle il y a d'ailleurs, on voit une petite statue qui représente Gutenberg, une très belle presse du XVIe siècle, une presse... imprimé, et puis ce qui est toujours très beau, des murs couverts d'ouvrages anciens.
Dans l'exposition, le motif du livre dans votre œuvre est aussi abordé. Et ces estampes sont placées dans des vitrines que le visiteur surplombe du regard, contrairement aux autres qui sont accrochées sur les murs. Pourriez-vous, Éric Desmazières, détailler ou décrire l'une d'elles? Je pense à cette eau-forte de 2002 qui reproduit deux ou trois livres anciens déposés les uns sur les autres et manifestement de très très vieux ouvrages. On a littéralement l'impression de les avoir sous les yeux.
Le livre est un très beau thème pour un artiste dans sa destruction. Et d'ailleurs, il se trouve que j'avais fait une gravure, c'est peut-être ça que vous pensez. Un marchand qui n'est plus de ce monde, qui s'appelait Arsène Bonafoumura, qui était un très bon marchand de gravure, m'avait montré un jour un registre de boulanger, qui était une espèce d'ouvrage oblong comme ça, et qui était commencé, il y avait quelques pages, il y avait des inscriptions, je ne sais pas quoi, chat de farine, enfin des comptes. En revanche, le reste du volume, les feuilles étaient vierges. Il y avait une centaine de feuilles vierges, et par le filigrane, on pouvait savoir que c'était de 1720, et que c'était du sud-ouest de la France. Un très beau papier, verger, comme ça. Et il m'a dit, pourquoi ne représentez-vous pas cet objet? Et ensuite, vous l'imprimerez sur les pages vierges. C'est ce que j'ai fait. Donc l'ouvrage est représenté, mais il s'est détruit par sa représentation, on va dire.
Voilà,
c'était donc,
très belle
on sait pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sache que c'était un registre de boulanger, que le papier est de 1720, que c'est du sud-ouest. Enfin, c'était... Mais il n'existe plus que la gravure. Enfin, les gravures.
Est-ce que vous en avez fait?
J'ai fait deux gravures, oui.
C'est ça qui est exposé?
C'est également...
Rue de l'Échaudé?
Oui,
c'est là que je l'ai vu, alors je confonds avec...
Dans l'exposition qui accompagne l'apparition d'un autre livre sur les cabinets de curiosité. Et c'est également l'exposition de la Bibliothèque nationale, oui. Dans les vitrines, alors.
La Brouste était aussi académicien?
Je crois, oui. Alors, je ne sais pas qui l'a remplacé et qui lui a succédé, mais enfin, c'est...
Votre confrère de l'Académie des Beaux-Arts, l'architecte Aymeric Soublena, qui a fait entre autres le Stade de France, m'a fait part de son admiration le jour du vernissage en regardant vos dessins préparatoires de la salle Labrouste. Parmi les gravures qui sont exposées, il y a placé côte à côte un de vos grands dessins préparatoires et la gravure que vous en avez tirée. Et en les comparant, Aymeric Soublena disait que vous deviez être architecte pour saisir de cette manière cet espace immense. Il était absolument fasciné par votre œil et par ce que vous aviez fait et il était soufflé.
Ça fait plaisir.
Voilà.
Labrouste,
de la qualité de votre œuvre.
C'était un très très bon architecte qui est l'architecte de deux œuvres essentiellement, de deux bibliothèques. La bibliothèque Sainte-Geneviève et la salle Labrouste. Enfin, d'abord Sainte-Geneviève et ensuite Labrouste. Mais enfin, qui sont des ouvrages considérables. Comme Garnier était finalement à quelques bâtiments près, l'architecte d'un bâtiment, l'Opéra de Paris. Ce sont des gens qui ont, comme ça, consacré leur vie.
À l'inverse de Baltard, qui a... Alors lui...
Oui. Alors, mais c'est vraiment... C'est...
Laisser des traces dans tout Paris.
Mais Labrouste était d'abord un très bon dessinateur. On peut le voir à l'exposition qui a lieu actuellement. D'ailleurs, ça se voit quand on dessine son architecture, même que c'était un bon dessinateur, car tout est dessiné. Il va absolument dans le détail, alors que c'est une structure très moderne, la salle Labrouste, avec cette coupole arachnéenne comme ça, très métallique, très innovante pour l'époque. En revanche, on voit que tout est surdessiné, il y a des ornements autour des boulons, le mobilier qui était dessiné par Labrouste, les bouches d'aération dessinées par Labrouste. On voit qu'il y avait un goût du dessin et un goût de la définition précise. Et c'est très frappant quand on le dessine même, comme ça.
On s'en rend compte.
Et c'est confirmé quand on voit les dessins, d'ailleurs, que je ne connaissais pas avant cette exposition.
Vous vous lanceriez dans une construction architecturale?
Non,
jamais.
J'ai choisi de faire de la gravure et du dessin.
Jamais.
J'ai un frère qui fait ça pour moi.
Sur quel lieu travaillez-vous en ce moment, ou est-ce qu'il y a un lieu particulier qui retient votre attention?
À vrai dire, je continue.
Parce qu'il y a eu les toits de Paris.
Pour tout vous dire,
mais
il ne faut pas le répéter, parisien. Cette suite des magasins Saint-Denis Paris n'est pas tout à fait terminée, car il y a eu un épisode un peu pénible. C'est qu'une des plaques avait disparu, mais on l'a retrouvée. Et donc, il s'agit de terminer cette suite. Et il est possible, mais bon, il ne faut pas trop parler des projets, parce que quand on en parle, ils ne se réalisent pas. Certains dessins qui sont dans ce carnet, j'aimerais en faire des gravures, peut-être en changeant l'échelle, alors en faisant ça, qui sont des fragments de la salle Labrouste, mais en beaucoup plus grand. Alors. Donc voilà. Et puis j'ai aussi un autre projet, enfin qui est déjà en cours, avec Olivier Rollin, qui serait alors à l'inverse, on va dire, de la monumentalité de Labrouste, qui serait la description littéraire par lui et graphique par moi de petites choses, de petites... une asperge, un caillou, un scarabée, comme ça, qui s'appellerait Minutalia. Et donc, ce serait une collaboration entre nous, donc, de choses à une toute petite échelle, alors, de choses minuscules. Changement total
d'échelle. Changement
d'échelle. Voilà.
Bah, écoutez, on a hâte de voir ce changement total. Merci Éric Desmazières d'être venu nous présenter cette magnifique exposition. Éric Desmazières au Centre des bibliothèques, et ce livre Éric Desmazières, Voyage au Centre de la Bibliothèque.